Radio Starbucks.
Morning edition from NPR
News.
France Inter. Le 18-20.
Si vous regardez ces arbres-là, ils produisent normalement 30 kilos d'olives chacun. Cette année, on n'en tirera pas plus de 5-6 kilos par arbre. C'est un producteur d'huile d'olive dans les Pouilles en Italie. Récolte catastrophique cette année, ce sera l'escale. Reportage avec Mathilde Imberti. Dans Un jour dans le monde, sous les radars de l'actualité, en Turquie avec Amélie Perrier, une colère du président Erdogan, une vidéo virale en Italie et un concours de chant planétaire. Le Monde, selon Trump, avec Grégory Phillips à Washington, Trump sur tous les fronts avant les élections de mi-mandat demain. Et puis Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers, nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, elles ne vont pas affaiblir le pouvoir des mollahs à Téhéran. Mais tout de suite, la crise humanitaire au Yémen.
Pierre Veil, Un jour dans le monde.
En une du New York Times, le 27 octobre, la photo d'une petite fille en train de mourir de faim, Amal Hussein. Elle avait 7 ans et elle est morte quelques jours plus tard. Petite fille yéménite, squelettique, photographiée dans un hôpital de l'UNICEF au nord du Yémen, victime de cette guerre qui oppose des rebelles houthistes soutenus par l'Iran à une coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite. Cette photo révèle l'horreur qu'est le Yémen aujourd'hui, 4 années de guerre entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis. Eh bien, cette guerre a réussi à plonger dans ce pays dans une famine géante, imminente, c'est ce que dit l'ONU, une famine qui pourrait toucher 14 millions de personnes, soit la moitié de la population. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, demande aux partis d'arrêter les hostilités et juge que ce pays, le Yémen, est devenu, je cite, « un enfer sur terre pour les enfants frappés par la famine ». Alors pour évoquer cette situation, nos invités ce soir, au téléphone à Dubaï, Caroline Seguin, qui est responsable du programme Yémen pour l'ONG, Médecins Sans Frontières, et puis dans ce studio, à mes côtés, Véronique de Vigry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes photojournaliste et vous avez remporté le prix Visa d'Or au Festival International de Photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan en septembre dernier pour un reportage que vous avez réalisé l'année dernière au Yémen. Caroline Seguin, je vous joins au téléphone à Dubaï. Première question, quelles sont les dernières informations que vous avez obtenues de vos équipes de Médecins Sans Frontières actuellement au Yémen? Elles arrivent à travailler, elles arrivent à lutter contre cette famine qui touche des millions de personnes?
Bonsoir. Les dernières informations sont plutôt que les bombardements reprennent fortement sur l'ensemble du Yémen, notamment sur le nord et la ville d'Hodeïda. La ville d'Hodeïda qui est en train d'être prise en étau puisque la coalition depuis ce week-end mène une offensive très serrée. Nos équipes sont sur place et ont passé une partie de leur journée enfermées dans des pièces sécurisées du fait que les bombardements étaient vraiment proches de l'hôpital. On a reçu bon nombre de civils blessés aujourd'hui et hier, notamment des enfants qui sont arrivés morts à l'hôpital du fait des bombardements. Sur le reste du pays, on arrive à travailler encore malgré de grandes difficultés d'accès, puisqu'on a des contraintes très très importantes pour arriver sur certaines zones. Ce que l'on voit, c'est que la population, après 4 années de guerre, comme vous l'avez dit, est dans une situation de plus en plus critique. Médecins Sans Frontières, on ne fait pas le diagnostic de famine aujourd'hui. Par contre, on voit qu'il y a effectivement une augmentation des cas de malnutrition du fait d'une inflation qui est très importante et qui est vraiment accrue depuis quelques mois. Donc on voit qu'il y a une partie de la population qui aujourd'hui n'accède plus à la nourriture. Cependant, les besoins sont beaucoup plus larges aujourd'hui que des distributions alimentaires ou des centres, la création de centres nutritionnels. Un des problèmes majeurs que l'on voit, c'est l'accès aux soins, du fait que la population est de plus en plus pauvre et n'arrive même pas à se payer un bus pour aller consulter dans les hôpitaux. On voit également qu'il y a de moins en moins d'hôpitaux qui sont fonctionnels aujourd'hui du fait que les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis 2 ans, du fait que les importations de médicaments sont de plus en plus difficiles et du fait que la population est de plus en plus malade. On a pu voir l'année dernière une énorme épidémie de choléra qui était sans précédent, probablement la plus grosse au monde jamais vue. Et puis cette année, on a vu une recrudescence des cas de diphtérie, ce qui est quand même extrêmement rare et qui note vraiment une dégradation du niveau de santé des populations. Et ces dernières semaines, on voit arriver des cas de rougeole en grand nombre. Et malheureusement, certaines zones aujourd'hui ne sont pas accessibles. Et donc, des campagnes de vaccination ne sont même pas envisageables.
Caroline Sega, restez en ligne avec nous. Je me tourne vers vous, Véronique de Vigry, photojournaliste. Vous étiez au Yémen l'année dernière pour un reportage. Cette famine qui est là, qui va toucher peut-être 14 millions de personnes, elle était déjà enclenchée lorsque vous étiez sur place. Et qui est responsable? Qui bloque l'arrivée de la nourriture, des vivres, de l'aide humanitaire, de l'aide médicale?
Lorsque nous y étions avec Manon Kérouille l'année dernière, pour Paris Match, effectivement, nous avons vu des cas de famine. Mais c'est, par contre, nous étions surprises, par exemple, à Sanaa, de voir qu'il y a de la nourriture dans les supermarchés. C'est juste que, à cause de l'inflation, se nourrir est devenu un vrai luxe. Donc c'est pas vraiment, là je parle pour les villes, qu'il y a un manque d'accès à la nourriture, c'est que les gens ne peuvent pas se le payer. Et aussi, effectivement, avec l'inflation, s'offrir un billet de bus pour amener son enfant qui est gravement malade à l'hôpital, c'est un vrai investissement que la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir, ce qui fait que les enfants arrivent déjà, en fait, et c'est déjà presque trop tard. Donc c'est plus que... nous, ce qu'on avait plutôt vu, c'est que les enfants meurent de maladies dont on devrait plus du tout mourir au 21e siècle aujourd'hui. On meurt d'une diarrhée mal soignée, on meurt aussi de faim, mais aussi de petits bobos idiots.
Mmh. Et lorsque vous aviez des contacts avec les combattants des deux côtés, vous aviez le sentiment qu'il y avait une forme d'indifférence. La priorité pour eux, c'est la guerre, combattre, l'emporter. Tant pis si des civils, si des enfants meurent.
Je crois que oui, des deux côtés, les civils ne sont pas du tout pris en compte et font partie de ce qu'ils appellent les victimes collatérales de cette guerre, et ben tant pis. C'est vrai que sur l'aide humanitaire, par exemple sur le port d'Hodeïda, on nous avait dit que les Houthis aussi imposaient des taxes sur ces aides-là, qui faisaient qu'elles arrivaient au compte-gouttes, qu'elles étaient beaucoup beaucoup trop chères. C'est que en fait tous les gestes du quotidien, l'accès à l'eau potable, l'électricité, les médicaments, la nourriture, ce qui nous paraît normal aujourd'hui, ben pour les Yéménites, c'est une vraie galère. C'est un problème.
Caroline Seguin, je rappelle, responsable du programme Yémen pour l'ONG Médecins Sans Frontières. Au téléphone à Dubaï, il y a un léger décalage dans notre conversation à cause de la distance. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une aide alimentaire, humanitaire, des médicaments qui arrive quand même dans ce pays par certains ports et qui est bloquée, ou est-ce que ça ne peut plus, ça n'arrive plus? Caroline Seguin.
Aujourd'hui, notre ONG passe par le port d'Aden pour acheminer l'aide, et ensuite on remonte les médicaments et l'aide jusqu'au nord par la route. Tout ça se fait avec grande. On y arrive encore aujourd'hui. Hein, le Yémen est une des plus grosses opérations pour Médecins Sans Frontières, parce qu'on a une centaine d'expatriés sur le terrain et plus de 2000 personnels national. Néanmoins, tout ça se fait avec de grandes difficultés, et on voit que l'accès est de plus en plus difficile, hein, du fait des contraintes imposées par la coalition quand il s'agit d'importer des médicaments, mais également quand il s'agit d'obtenir des visas pour nos expatriés. Donc oui, on y arrive. On a la chance d'être vraiment encore bien présent sur le terrain, mais c'est pas le cas pour d'autres ONG qui sont cantonnées dans Sanaa ou dans Aden et qui ont du mal à se déployer vers l'extérieur. Il faut dire aussi que, comme je disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas accessibles du fait de l'insécurité et des bombardements. Il faut savoir que Médecins Sans Frontières a quand même eu 5 hôpitaux qui ont été bombardés depuis le début de la guerre, et on a déploré des pertes chez nos patients et notre personnel national qui travaillait dans nos hôpitaux. Et aujourd'hui encore, on n'a aucune garantie de la sécurité. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos équipes à Hodeïda ont passé encore 2 heures aujourd'hui dans des pièces de sécurité parce que les combats étaient juste à la porte de l'hôpital et les bombes également. Donc aujourd'hui, ça reste un vrai challenge de travailler au Yémen.
Caroline Seguin, est-ce qu'on est vraiment face à la pire crise humanitaire dans le monde actuellement? Et est-ce que ces chiffres effrayants, une famine qui pourrait toucher 14 millions de personnes, on peut encore l'éviter? Et si on peut l'éviter, comment faire?
Je pense que la catastrophe est là. Hein. On a traité, par exemple, 80 000 blessés depuis le début du conflit. On voit également que depuis des mois, les patients arrivent de plus en plus en mauvaise condition et tout ça. Donc, je dirais que la catastrophe est là. Après, évidemment, une solution politique doit être trouvée rapidement pour éviter que la catastrophe s'empire.
Véronique de Vigry, vous étiez sur place. Lorsque vous aviez des contacts avec le personnel médical, le personnel qui apporte une aide humanitaire, vous aviez le sentiment de gens qui étaient dépassés par les événements?
Ben déjà, en fait, nous, déjà, c'était l'année dernière, ça faisait un an qu'ils n'étaient pas payés. Ils n'avaient pas reçu de salaire. Donc, en fait, les médecins, ils étaient obligés, pour survivre, de ceux qui venaient toujours à l'hôpital, de faire payer un peu les familles qui amenaient un patient, ce qui faisait un coût parfois pour des familles trop lourd à supporter. Donc ils venaient quand même, ils essayaient de bidouiller avec les médicaments qu'ils avaient, ce qu'ils avaient. Mais il y a clairement un manque de soins et un manque de personnel du fait qu'en fait, tout l'État, en tout cas dans le nord du Yémen, s'est complètement effondré et qu'il n'y a plus de salaire versé ni pour les médecins, ni pour les professeurs, ni pour rien en fait. Donc il va falloir trouver des solutions et je pense effectivement que l'issue doit être politique. Mais
Caroline Seguin pour Médecins Sans Frontières, si vous souhaitez, pour aider ces populations civiles, envoyer plus de personnel de Médecins Sans Frontières sur place, vous en avez la possibilité ou est-ce qu'on vous empêche d'aller sur place? Caroline Seguin.
Il y a des zones où on arrive à travailler, sur notamment, on arrive à travailler de Aden à Saada, de gouvernorat au nord. Cependant, encore une fois, chaque fois qu'on envoie du personnel sur place, on prend des risques. Et aujourd'hui, je pense qu'on atteint à peu près quasiment notre capacité maximum en termes de volume opérationnel. Et encore une fois, certaines zones sont aujourd'hui impossibles d'accès parce que on nous empêche d'y aller et parce que l'insécurité est trop importante pour se rendre sur place.
Cette crise humanitaire, Véronique de Vigry, vous avez l'impression que c'est une arme utilisée par les belligérants?
Ah oui, clairement, ouais. Je pense que le blocus imposé, en tout cas dans le nord du Yémen, est clairement une arme utilisée par la coalition pour essouffler la population et peut-être les pousser à se rebeller contre les Houthis. Oui, je pense que oui, la famine est utilisée comme une arme de guerre.
Caroline Seguin, certaines ONG se sont mobilisées et disent qu'il faut que les puissances occidentales ne livrent plus d'armes aux belligérants. Est-ce que vous estimez que voilà, les ONG doivent se mobiliser pour empêcher des livraisons d'armes, notamment à l'Arabie Saoudite?
On n'est pas très... En tant que Médecins Sans Frontières, on se concentre sur la réponse humanitaire et on est aujourd'hui pas extrêmement spécialisé sur les ventes d'armes, etc. Donc j'aurais du mal à me prononcer sur cette question. Mais évidemment que moins on vendra d'armes à l'Arabie Saoudite, peut-être moins ils enverront de bombes sur les civils yéménites.
Merci beaucoup Caroline Seguin d'avoir été en ligne avec nous à Dubaï. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Yémen pour l'ONG Médecins Sans Frontières. Merci à Véronique de Vigry, photojournaliste. Vous êtes rendue sur place et vous avez expliqué que vous n'êtes pas étonnée par ce désastre humanitaire auquel on assiste actuellement avec ce risque de famine pour 14 millions de personnes. Merci beaucoup.
Merci.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
À suivre dans Un jour dans le monde sous les radars de l'actualité. Amélie Perrier sera là dans quelques instants. Grégory Philippe, il est à Washington. Le monde selon Trump. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Pierre.
Alors demain, le moment de vérité, l'épreuve des urnes pour Trump.
Ah oui, le compte à rebours, ça y est enclenché. Demain, on vote aux États-Unis pour ces élections de demi-mandat et Trump met tout son poids dans la bataille avec 3 meetings en quelques heures prévus pour ce soir pour le président américain.
On se retrouve pour en parler vers 18h50 et puis 18h55 à peu près, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Nouvelles sanctions américaines visant l'Iran, efficaces ou pas ?
Officiellement, elles sont censées épargner la population et sanctionner les dirigeants iraniens et dans les faits, c'est à peu près l'inverse. Elles épargnent les dirigeants iraniens et elle sanctionne la population iranienne.
À tout à l'heure, Jean-Marc. Pause musicale maintenant avec les Lemon Twigs sur leur second album Go to School. Il y a Small Victories, ambiance festive. Lemon Twigs, Small Victories dans Un jour dans le monde.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie mon capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, il compare les compagnies pétrolières aux terroristes en Syrie.
Le président Recep Tayyip Erdogan n'a pas fait dans la demi-mesure hier contre Total ou encore contre l'américain ExxonMobil et l'italien Eni. Il s'exprimait dans un registre très martial lors de la mise en service du TCG Burgazada. C'est le troisième navire de combat construit par la Turquie. Un chapitre de son vaste programme d'équipement militaire.
Bu Akdeniz'deki
doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak...
Devant les généraux, tout en médaille, il martèle ici, nous n'accepterons pas la confiscation des ressources naturelles en Méditerranée orientale. Et ensuite, il va ajouter, de la même manière qu'on a fait payer les terroristes en Syrie, on ne va pas laisser le champ libre aux bandits de la mer. Les bandits de la mer, ce sont bien les grands groupes pétroliers à la recherche d'hydrocarbures près de Chypre. Dossier très sensible, vous savez que le tiers nord de Chypre est turc et en conflit avec la partie sud de l'île grecque. Chypre au sud a signé des contrats avec les grands pétroliers, mais Erdogan l'a dit hier. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre un pied en Méditerranée orientale ou en mer Égée au mépris de la Turquie commencent à comprendre qu'ils sont en train de faire une grosse erreur. Et déjà en février, un navire de forage d'Eni avait dû abandonner sa mission, bloquée par un bâtiment militaire des Turcs.
Et puis une vidéo virale en ce moment sur les réseaux italiens.
Alors voilà, la scène se déroule dans le métro de Naples, vendredi dernier. Un homme insulte un autre homme d'origine pakistanaise. Il lui dit de quitter le wagon. L'Italie, ce n'est pas eux, c'est nous, crie-t-il. Sauf qu'une passagère que vous venez d'entendre n'a pas l'intention de se taire. Elle s'appelle Maria Coppola. On apprend qu'elle travaille pour la RAI, la télévision publique italienne. Elle a 62 ans et elle a bien l'intention de remettre à sa place l'agresseur. Tu n'es pas un raciste, simplement un connard, pardon pour le gros mot, lui lance-t-elle. Je préfère que l'Italie leur revienne à eux plutôt qu'à des gens comme toi. L'altercation dure un moment, mais Maria Coppola ne se laisse pas intimider. Le soir, elle a été invitée à raconter la scène à la RAI. « Je ne pouvais pas rester silencieuse », a-t-elle expliqué. Bien sûr, j'aurais aimé que quelqu'un intervienne, parce qu'elle est bien la seule dans le métro à défendre l'immigré. Le président de la Société des Transports de Naples a remercié Maria Coppola pour son courage et veut lui remettre le prix du courage de la ville et un bouquet de fleurs, bien le moins qu'on puisse faire pour cette sexagénaire qui ne s'est pas tue. La vidéo a été vue plus de 160 000 fois.
Et puis l'histoire d'un concours de chant planétaire.
Alors, c'est pas l'Eurovision, mais ça a son charme aussi, vous allez voir. À l'occasion des 150 ans de la naissance du Mahatma Gandhi, le gouvernement indien a proposé aux artistes du monde entier d'interpréter un hymne hindou, Vaishnava Javato, et d'en sélectionner les meilleures versions. C'était le chant préféré de Gandhi, nous dit-on. Et en Tunisie, l'ambassade indienne a alors contacté Abderrahman Boukhari, peintre et chanteur. Voilà ce que ça donne.
Vaishnava janato tenikayaj pir parai jane re.
Alors Abderrahman Boukhari s'est entouré de musiciens traditionnels tunisiens. Il dit qu'il a écouté la chanson près de 100 fois pour en comprendre l'essence. Il a cherché la traduction. Vaishnava Janato, celui qui est vishnuite en français. Le vishnuisme, c'est un courant de l'hindouisme. Ce chant évoque le respect de l'eau, de la femme, l'amour, l'honnêteté. Des valeurs dans lesquelles le Tunisien se reconnaît. Et le clip a plu en Inde. Il a même été tweeté par le premier ministre Narendra Modi. Le dirigeant indien souligne que le Mahatma est révéré en Tunisie comme une icône de la paix et que sa philosophie y est largement enseignée. Le chanteur, lui, s'est réjoui d'avoir rapproché les cultures à travers un mariage plutôt inattendu mais plutôt heureux entre les musiques indiennes et tunisiennes.
Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier. Merci Amélie.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
C'est l'escale reportage. Rien ne va plus pour l'huile d'olive italienne. La première région de production, celle des Pouilles, vit une saison catastrophique. La récolte des olives devrait se terminer dans les prochains jours, faute d'olives à ramasser. En effet, une vague exceptionnelle de gel et la présence de mouches a fait chuter la production de plus de 50%. L'Italie devrait passer de 420 000 tonnes d'huile d'olive produite d'ordinaire à 200 000 cette année, selon les prévisions des professionnels du secteur. Dans le très compétitif marché de l'huile d'olive, eh bien, c'est un coup dur pour le pays. Mathilde Imberti, vous êtes notre correspondante permanente en Italie. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir à tous.
Mathilde, vous étiez la semaine dernière près de Bari, le réservoir à olives de l'Italie.
Oui, précisément à Bitonto, une grosse bourgade de 60 000 habitants près de Bari, où la procession des saints patrons de la ville lance traditionnellement la saison de la récolte des olives. Mais cette année, au cœur de la principale région productrice d'Italie, le calendrier est détraqué. La récolte a démarré dès la fin septembre et devrait être bouclée dès les premiers jours de novembre, car les oliviers produisent deux fois moins de fruits que les autres années. Exemple dans ce champ de 700 oliviers où nous conduit Gaetano Bonassia, responsable technique de l'huile Olivetti Terra di Bari, l'une des dénominations d'origine protégée des Pouilles.
Possiamo già vedere insomma che questi alberi rispetto alla produzione classica di media.
Si vous regardez ces arbres là, ils produisent normalement 30 kg d'olives chacun. Cette année, on n'en tirera pas plus de 5-6 kg par arbre. Il y a deux explications. D'abord, l'épisode de gel en février dernier. Il a fait moins 7 degrés. L'arbre n'a pas supporté et les tissus se sont rompus.
La seconda è dovuta alla diciamo un'abbondante presenza di mosca.
La deuxième explication, c'est une invasion de mouches qui attaque les olives et provoque leur pourrissement. Cela explique donc la baisse de rendement des oliviers, de 60 à 70% selon l'intensité de l'épisode de gel sur les plantations.
À quelques kilomètres de là, au pressoir industriel de Bitonto, le responsable Giuseppe Cariello bichonne sa production annuelle. C'est chez lui qu'arrivent les olives, qui sont ensuite dénoyautées, nettoyées, pressées et au terme d'un scrupuleux processus transformées en huile d'olive parée pour l'export.
Et c'est un calo notevole, molto forte quest'anno.
La chute est considérable. Dans cette coopérative, on traite chaque jour quasiment 2000 quintaux d'olives. Cette année, on en traite deux fois moins. On s'apprête même à fermer l'usine ce mois-ci. D'habitude, nous avons du travail jusqu'à après Noël, voire la fin janvier. Ce sont des phénomènes exceptionnels. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça.
La conséquence de cette baisse de production, c'est naturellement que le prix de italienne va augmenter, mais d'environ 10% seulement, car les producteurs compensent en puisant dans leur trésorerie, en réduisant leurs investissements et en faisant appel aussi au fonds de la politique agricole commune qui leur garantit un revenu minimum d'environ 300 euros par hectare. Il n'est en tout cas pas question de compléter la maigre récolte de cette année avec des olives des précédentes saisons, encore moins de mixer des olives italiennes à des olives étrangères, précisément parce que la qualité est ce qu'il nous reste, argumente Gennaro Sicolo, président de Terra Olivicoltura, le consortium national des producteurs d'huile d'olive italienne.
I nostri oli sono apprezzati per la qualità. Non possiamo mettere i nostri oli con gli oli spagnoli, gli oli tunisini.
Nos huiles italiennes sont appréciées pour leur qualité. Elles sont incomparables avec les huiles espagnoles ou tunisiennes. On récolte les olives pendant la véraison, avant la maturité. On utilise des vibreurs qui font tomber les fruits sur de grandes toiles pour qu'ils n'entrent pas en contact avec le sol. C'est une méthode contraignante. Ensuite, nos olives sont broyées dans les 24 heures, ce qui garantit cette qualité et ce parfum particulier différent des autres. En Italie, nous avons 450 variétés d'olives. Les huiles espagnoles en comptent-elles seulement 2 ou 3. Ce sont des huiles plates, des huiles Coca-Cola. La vraie huile d'olive doit avoir du piquant, signe de qualité. Les nôtres sont riches en polyphénols et autres substances excellentes pour la santé.
La bataille est rude au niveau européen. L'Italie s'est fait et de loin dépasser par l'Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive. L'Italie qui subit en plus depuis 5 ans les ravages de la bactérie Xylella qui a décimé une province entière des Pouilles, déjà celle de Lecce, et remonte petit à petit le talon de la botte italienne.
Nous n'avons pas encore trouvé la parade. C'est une bactérie qui a été importée du Costa Rica.
Possiamo dire che c'è la ricerca.
Les chercheurs semblent avoir trouvé deux variétés d'oliviers résistantes à la bactérie, mais il est trop tôt pour crier victoire. En attendant, nous essayons d'intervenir comme nous le recommandent les chercheurs, en extirpant les oliviers infectés, en allant vers de bonnes pratiques agricoles, plus de labour, de consommation biologique. La recherche progresse, mais nos politiques sont trop lentes et ne prennent pas de mesures drastiques.
Les accusations pleuvent contre des décideurs politiques qui ne savent pas défendre suffisamment les producteurs. Ceux que nous rencontrons n'en reviennent toujours pas. Après l'épisode de gel de l'hiver dernier, ils s'attendaient à ce que l'état de calamité naturelle soit reconnu. Eh bien non, raconte-t-il, la région des Pouilles n'a pas envoyé à temps le dossier de demande au ministère de l'Agriculture à Rome, une illustration des retards qu'accuse parfois le système italien de production.
Escale reportage signé Mathilde Dimberti, notre correspondante en Italie, dans les Pouilles, cette région où la récolte d'huile d'olive est catastrophique cette année. En 2000, P.G. Harvey marquait l'année musicale avec Good Fortune. Fortune, P.G. Harvey, il est 18h50.
France Inter.
I will work so hard.
Pierre Veil.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et le monde selon Trump, saison 2, c'est maintenant avec notre correspondant permanent aux États-Unis, Grégory Phillips. Grégory à Washington, Donald Trump, il est sur tous les fronts à la veille des élections de mi-mandat et c'est demain.
Oui, vous avez raison, Trump avale les kilomètres avant l'élection de demain. Programme infernal, écoutez, 11 meetings en 6 jours dans 8 états différents. Regardez ce soir, le président rencontrera ses supporters à Cleveland, Ohio, puis dans l'Indiana, puis dans le Missouri. 3 réunions publiques en quelques heures dans 3 états, c'est quasiment le rythme d'une campagne présidentielle. Et à chaque meeting, eh bien, il y a cette chanson reprise en chœur par les foules portant la casquette rouge « Make America Great Again ». Elle s'appelle « God Bless the USA ». Voilà, chanson extrêmement patriotique évidemment, interprétée par Lee Greenwood, qui est un chanteur de country music assez réputé ici. D'ailleurs, ce qu'on entend derrière moi, c'était hier soir dans le Tennessee, Greenwood sur scène aux côtés du président des États-Unis pour chanter cet hymne à l'Amérique. En revanche, voici ce qu'on ne devrait plus entendre ce soir dans les derniers meetings de Trump.
Please don't stop the music.
Voilà, Rihanna qui demande à l'équipe de campagne du président d'arrêter d'utiliser sa musique pour chauffer entre guillemets les foules de supporters. Avant elle, Guns N' Roses avait demandé la même chose. Et dans le même temps, Rihanna, qui n'est pas américaine, donc qui ne votera pas demain, mais qui a quand même, Pierre, près de 90 millions de personnes qui la suivent sur Twitter, c'est plus que le président. Eh bien, Rihanna appelle les habitants de Floride à voter pour le candidat démocrate Andrew Gillum, qui, s'il est élu demain, deviendrait le premier gouverneur afro-américain de l'État de Floride.
Alors Grégory, côté démocrate, on espère bien faire basculer la Chambre des représentants, peut-être gagner quelques sièges au Sénat. Et demain, tous les regards seront tournés vers le Texas et vers le candidat démocrate, Beto O'Rourke, dont on a déjà parlé ici.
Oui, et parce que je sais que vous aimez la musique, Pierre, on va continuer sur ce créneau-là. Savez-vous qui au Texas soutient ouvertement le jeune candidat démocrate Beto O'Rourke? Eh bien, une autre star de la country et de la folk musique, Willie Nelson, comme dans cette publicité. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. I'm Beto O'Rourke and I approve this message. Et donc Beto O'Rourke, figure montante du Parti démocrate, qui sera opposé demain au sénateur sortant Ted Cruz. O'Rourke, star de cette campagne des midterms, très charismatique, très médiatique, comparé parfois à Kennedy. Mais ce sera quand même très difficile de l'emporter dans cet état du Texas qui depuis 40 ans maintenant vote républicain à chaque élection.
Les élections à mi-mandat, je le rappelle, hein, demain et après-demain, 18h, 20h, émission spéciale sur France Inter en direct de Washington avec vous Grégory Phillips et Fabienne Sinter. Si je la remplace, c'est qu'elle a pris l'avion. Elle est là-bas, aux États-Unis, et vous la retrouverez donc demain et après-demain pendant 2h, 18h, 20h, émission spéciale avant et après ces élections de mi-mandat. Grégory, on a l'habitude de dire que juste après les mi-termes aux États-Unis commence la campagne pour la présidentielle. C'est le cas? On pense déjà à 2020?
Ah oui, Pierre, il suffit de regarder la télévision aujourd'hui pour le mesurer, avec par exemple l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui vient de dépenser 5 millions de dollars pour cette campagne de publicité sans équivoque.
Hello. I speak to you today on the
Bonjour. Je m'adresse à vous à la veille de ces élections de mi-mandat, pas en tant que démocrate ou républicain, j'ai été les deux, mais en tant qu'Américain qui se sent inquiet de la direction que prend notre nation. Nous devons envoyer un message aux républicains de Washington. Ils ont échoué, ils n'ont pas trouvé de solution et n'ont pas réussi à nous rassembler. C'est pour ça que je vais voter démocrate.
Voilà, il est assez clair que Bloomberg est en train de se positionner pour 2020. Et puis on commence aussi à sonder les futurs duels possibles pour la présidentielle. Et le site internet Axios a imaginé une élection qui opposerait dans 2 ans Trump à une femme. L'institut SurveyMonkey a testé toutes les candidates possibles et toutes battraient Donald Trump. Et celle qui ferait le meilleur score face à l'actuel président, eh bien c'est l'ex-première dame, Michelle Obama, mais qui, depuis que son époux a quitté la Maison Blanche, jure qu'elle n'a aucune envie de se lancer en politique. On verra bien d'ici 2 ans.
Grégory Phillips, et bien sûr, à demain, 18h, 20h, avec Fabienne Sintès, un jour dans le monde, à Washington, pour nous parler de ces élections de mi-mandat. Et demain, avec Fabienne, on ira dans l'Amérique de Donald Trump, à l'écoute de ses électeurs qui soutiennent le président américain.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est donc cet après-midi qu'est entré en vigueur le nouveau train de sanctions commerciales américaines contre l'Iran. Cette fois, ce sont les exportations pétrolières qui sont directement visées. Et dans votre monde à l'envers, vous nous dites, cette situation pourrait paradoxalement profiter au pouvoir des mollahs à Téhéran.
Alors c'est vrai que d'abord on se dit, oula, à vide gros temps pour les autorités iraniennes, le pétrole représente les 3/4 des exportations du pays, donc bonjour le manque à gagner. Et face au risque de représailles américaines, les entreprises européennes, on le sait, ont baissé pavillon, abandonné le marché iranien. Pour l'essentiel, seuls les Chinois, les Indiens, les Turcs vont continuer à commercer avec Téhéran. Du coup, c'est mécanique, les exportations de pétrole iranien sont déjà en chute libre, effet en chaîne sur l'économie du pays, inflation, chômage, etc. Donc risque de grogne sociale contre le pouvoir du président Rouhani. Et d'ailleurs, c'est le calcul de Washington avec une stratégie qui avance à peine masquée. L'objectif, c'est, je cite, que Téhéran change d'attitude. C'est la formule de John Bolton, le conseiller à la sécurité de Donald Trump. Une façon polie de dire que le but, c'est un changement de régime à Téhéran. Et au premier coup d'œil, on se dit en effet que la colère de la rue iranienne, alimentée par la situation économique, peut renverser le pouvoir à Téhéran. Mais ce calcul américain, en effet, pourrait aussi échouer de A à Z et au contraire aider le pouvoir iranien à se maintenir.
Jean-Marc, le fait est quand même que ça grogne en Iran.
Ça, personne ne le conteste. Les Iraniens sont mécontents de la situation économique, de la corruption aussi. Et le président Rouhani est dans une position politique délicate. Mais cette nouvelle série de sanctions américaines est surtout perçue comme une agression de Washington. Il n'y a pas mieux pour resserrer les rangs autour du pouvoir. D'ailleurs, hier, c'est un symbole assez classique à Téhéran, des milliers d'étudiants ont manifesté dans les rues au cri de « Ah, mort l'Amérique !» N'oublions pas ce qu'est l'Iran, c'est-à-dire l'héritière de la Perse millénaire. Le sentiment nationaliste est un ciment du pays. Il faut donc s'attendre d'abord à ce que les Iraniens fassent bloc derrière leurs dirigeants parce qu'ils se sentent agressés de l'extérieur, non sans raison, dans le cas d'espèce, il faut bien le dire. Et si quelqu'un tire profit de la situation, ce sont plutôt les durs du régime. Par-dessus le marché, les durs peuvent aussi en tirer profit sur le plan géopolitique. Je m'explique. Dans certains pays de la région, cette nouvelle vague de sanctions alimente l'image de victime dont joue Téhéran. Et comme le grand rival régional, l'Arabie Saoudite, traverse, les moins qu'on puisse dire, une mauvaise passe après l'affaire Khashoggi, ça peut être bénéfique à moyen terme pour l'Iran.
À moyen terme, Jean-Marc, oui, mais à court terme, le sujet, c'est quand même bien le risque de forte instabilité économique.
Et là, regardons bien aussi, parce que qui va tirer les marrons du feu sur le plan économique? La première conséquence des sanctions américaines, c'est que l'Iran, évidemment, va chercher à contourner cet embargo. Par exemple, en développant des sortes de ventes privées sur le marché pétrolier en dehors des contrats officiels, ou bien en laissant prospérer l'économie parallèle, faite de contrebande de marché noir. Dans les deux cas, ventes privées, marché noir, qui contrôle cette économie en Iran? Et hop là, là aussi, ce sont les durs du régime, à savoir pour l'essentiel les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Cette sorte d'armée parallèle, vous savez, qui possède d'ailleurs des dizaines de sociétés, qui contrôlent plusieurs ports et aéroports, notamment le terminal célèbre de Bandar Abbas, qui est la porte d'entrée du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique. C'est là que transite une partie de l'économie mondiale. Il y a quelques années, un rapport parlementaire iranien avait évalué leur chiffre d'affaires global, tenez-vous bien, à 12 milliards de dollars, ce qui est énorme. C'est essentiellement le fruit de la contrebande de pétrole non raffiné ou d'essence. Donc, on se résume. Les sanctions américaines vont peut-être appauvrir le peuple iranien, mais elles vont enrichir et renforcer ses dirigeants les plus radicaux. C'est un effet quasi mécanique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être du billard à trois bandes de la part de Washington, peut-être les États-Unis cherchent une radicalisation du pouvoir iranien pour mieux déclencher ensuite un conflit frontal et régler leur compte avec ce vieil ennemi. C'est possible, mais dans tous les cas de figure de la part de Washington, ça s'appelle quand même jouer avec le feu.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four.